est 7h30 à Bamako et à Dakar, une heure de plus ici à Paris. L'actualité africaine avec Simon Bourtembourg et à la une, Simon, le report de l'audience à Bruxelles dans l'affaire qui oppose Rokia Traoré et son ex-compagnon.
Il a été question de la garde de leur fille. La chanteuse malienne a déjà été condamnée par défaut pour non-représentation d'enfants. Elle demande à être rejugée. François Compaoré, bloqué en Côte d'Ivoire, il était venu rendre visite à son frère, l'ancien président du Burkina Faso. Il ne peut plus maintenant rentrer en France où il vit. Il ne s'agit que d'un problème de procédure, nous dira son avocat. Et puis dans ce journal, un dossier consacré à la sécurité de la route sur le continent. La tendance mondiale est à la baisse s'agissant du taux de décès dû aux accidents de la circulation, mais l'Afrique ne suit pas le même rythme. Illustration en Côte d'Ivoire où les autorités ont présenté le résultat d'une enquête sur le sujet. Et puis nous serons également au Rwanda où un laboratoire de test de casque vient d'ouvrir. Rokia Traoré reste donc en prison en Belgique. Le tribunal de Bruxelles tenait hier une audience concernant la condamnation par défaut de la chanteuse l'année dernière pour non-représentation d'enfants. La bataille judiciaire de Rokia Traoré contre son ex-compagnon Yanns Gosens dure depuis 2019 et elle n'est pas prête de se terminer. Compte rendu d'audience depuis Bruxelles avec Jean-Jacques Herry.
À droite de la salle, assis au deuxième rang, Yanns Gosens s'étouffe parfois quelques soupirs, comme lorsqu'il entend son ancienne compagne, menottée, expliquer au juge qu'elle avait peur depuis des années d'amener sa fille en Belgique et qu'elle n'en reparte pas. Le dramaturge n'a pas vu sa fille depuis 5 ans et demi, explique son avocat, maître Sven Marie.
Pendant les vacances scolaires, tel un père, il veut voir sa fille. Il ne demande pas la garde exclusive, il n'a d'ailleurs pas la garde exclusive, c'est jamais quelque chose qui a été demandé.
Je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait un procès, que l'on règle ça une bonne fois pour toutes, affirme aussi calmement Rokia Traoré. Dès son extradition en Belgique il y a 2 semaines, la chanteuse a fait opposition à sa condamnation à 2 ans de prison en 2023 pour non-présentation d'enfants. Elle était alors au Mali avec sa fille, son avocat maître Dimitri Debeco.
Madame Traoré demande à être rejugée. Il faut un petit peu se rappeler quelles sont les priorités aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Cette petite a 9 ans. Elle est à l'école au Mali. C'est son pays. Elle y a grandi. La Belgique, elle ne connaît pas.
Il est finalement très peu question du fond du dossier, mais surtout de procédure. L'avocat de Rokia Traoré, qui ne la défend que depuis quelques jours, demande ainsi un report de l'audience. Il faut que j'examine le dossier qui est complexe, plaide-t-il. Requête acceptée par le tribunal. Rokia Traoré, elle, quitte la salle entourée par 2 policiers. Sa demande de remise en liberté n'a pas été examinée par le tribunal, où elle reviendra le 8 janvier prochain. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Les États de l'AES rejettent la transition proposée par la CEDEAO. Une semaine après le sommet de l'organisation régionale, la réponse du Mali, du Burkina Faso et du Niger est donc tombée. Par un communiqué, les 3 régimes balaient du revers de la main le délai de 6 mois proposé par la CEDEAO pour organiser leur départ et permettre la poursuite des médiations. Les États de l'Alliance du Sahel qui accusent la France d'ingérence dans leur départ prévu en janvier. Paul Simon Andy est chercheur au sein de l'Institut d'études et de sécurité à Addis Abeba. Il décrypte pour nous cette stratégie du passage en force de l'AES.
Se confronter à la CEDEAO, l'accuser d'être le véhicule par lequel des puissances étrangères voudraient influer sur le devenir des pays africains, était une stratégie qui marchait. Donc elle procède par projection, appelée le gouvernement français, la junte française est une véritable projection. Donc les responsables de ces pays ont tout intérêt à jouer cette escalade. Mais à vrai dire, les raisons de ce durcissement sont ailleurs. En voulant s'extraire de la CEDEAO, elle s'extrait surtout aussi du contrôle que pourrait exercer la CEDEAO sur la sortie. Et surtout, elles sont dans une logique électorale. Elles veulent organiser dans les mois qui suivent des élections, surtout au Mali, qui pourraient se passer dans les 6 mois que la CEDEAO voudrait considérer comme une période de réflexion. Donc, la logique électorale des autorités de l'AES contraste avec la volonté de la CEDEAO, conciliante cette fois-ci, de négocier ou une sortie à l'amiable ou un maintien de ces pays au sein de l'organisation régionale.
Paul Simon Andy au micro RFI de Guillaume Thibault. Ils sont installés depuis un peu plus de 2 mois au Parlement sénégalais. Les 165 députés élus se penchent aujourd'hui sur le budget de l'année 2024. Ils vont devoir voter le projet de loi de finances rectificatif et permettre donc la clôture de l'exercice 2024 dans la transparence, selon l'exécutif. En fin de semaine, vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko doit lui prononcer sa déclaration de politique générale. Puis, les députés passeront cette fois à l'examen du budget de l'État pour l'année 2025. Un problème de visa, voilà ce qui empêcherait François Compaoré de rentrer en France où il est installé depuis 8 ans. Le frère cadet de l'ancien président burkinabé est bloqué en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit que d'un problème de procédure, clame maître Pierre-Olivier Sûr, conseil de François Compaoré.
Il est libre en Côte d'Ivoire, il est heureux en Côte d'Ivoire, j'allais même dire qu'il est joyeux en Côte d'Ivoire au moment de ses fêtes de Noël avec son épouse. Le problème est le suivant. Il n'obtient pas le visa pour rentrer en France pour des raisons de technique administrative ubuesque, comme il en arrive souvent en l'état. Qu'il y a eu une procédure d'extradition qui a été menée à la demande du Burkina Faso et la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a mis en échec cette procédure. À la suite de cela, la notice rouge qui accompagnait le mandat d'arrêt international a été effacée partout, sauf, semble-t-il, en Allemagne. Et il semble que de l'Allemagne, il y ait donc cette red notice, ce feu rouge qui bloque en ce moment le système de l'administration qui devrait permettre l'obtention du visa. C'est un petit peu ubuesque, mais ce n'est pas dramatique.
Maître Pierre-Olivier Sûr au micro RFI de Pierre Firsian. La justice malienne requiert un an de prison contre Issa Kaoun Djim. L'opposant est poursuivi pour ses propos tenus sur la chaîne Djoliba TV. Le délibéré de l'affaire dans lequel il est notamment accusé d'offenses commises publiquement envers un chef d'État étranger est fixé au 30 décembre prochain. Issa Kaoun Djim avait mis en doute la crédibilité d'un coup d'État supposément déjoué au Burkina Faso voisin. La réponse des autorités nigérianes après la mort ce week-end d'au moins 32 personnes dans deux bousculades. Des mouvements de foule lors de distributions alimentaires qu'Abuja ne veut pas voir se répéter dans la période des fêtes, alors que des dizaines de personnes sont déjà mortes piétinées ces dernières semaines dans ce type d'événement. Il faut mieux les encadrer, plaident les autorités nigérianes.
RFI.
En Côte d'Ivoire, un accident tragique hier sur l'axe Bondoukoudou-Abidjan, et ce alors que le ministère des Transports présentait une enquête sur la sécurité routière. 10 personnes sont mortes dans la sortie de route d'un minicar. Un nouveau drame, alors que chaque année, la Côte d'Ivoire dénombre environ 1500 décès liés aux accidents de la route. Pour identifier et mieux comprendre le phénomène, les autorités ivoiriennes ont donc étudié les accidents mortels survenus ces 5 derniers mois. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo.
Des véhicules vétustes, en mauvais état mécanique, des routes parfois jonchées de nids de poules et la surcharge des véhicules, voici les principales causes identifiées par l'enquête sur ces récents drames. Deux des accidents ont été suivis d'explosions dont l'origine reste encore floue. Étienne Kouakou, directeur de l'Office de la sécurité routière, apporte des précisions.
Nous avons pensé à un certain moment à l'utilisation de gaz butane, ce qui est quelque peu courant dans notre pays. Malheureusement ou heureusement, dans ce cas précis, il n'y avait pas de traces de gaz butane transportées en bonbonne. Nous continuons les recherches.
Pour prévenir de nouveaux drames humains sur les routes ivoiriennes, le ministère des Transports annonce une batterie de mesures, parmi lesquelles le renforcement de la vidéosurveillance et des contrôles routiers. Oumar Sako, directeur général des transports terrestres et de la circulation.
Tout part du contrôle routier. On a demandé à nos équipes, même quand un véhicule dispose de la visite technique, de manière visuelle, l'agent commis au contrôle constate que le pneu, par exemple, est usagé. Les dispositifs d'éclairage ne sont pas au top. Il faut que le véhicule soit immobilisé.
Autre donnée préoccupante, 37% des décès sur les routes à Abidjan concernent les utilisateurs d'engins à deux ou trois roues. Pour réduire ce chiffre, le ministère envisage d'interdire ces engins sur les grandes voies, avec une phase pilote prévue sur le boulevard Valéry-Giscard d'Estaing dès janvier 2025. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et la sécurité routière passe évidemment par un meilleur équipement pour les usagers de la route. Le port du casque à deux roues est encore un sujet de discorde sur le continent. Le Rwanda, où il est obligatoire depuis longtemps, fait donc figure de pionnier. Et Kigali fait même mieux en se dotant d'un laboratoire de test de qualité des casques de moto. L'outil, unique en Afrique, est piloté par un organisme public chargé de vérifier le respect des normes des produits au Rwanda. L'objectif est évidemment de réduire les accidents mortels sur les routes. Lucie Mouillot.
Accroché à un câble, un casque de moto est levé à plusieurs mètres de haut par l'équipe de Bernard Cabera, directeur du laboratoire d'analyse de matériaux.
Là, on va lâcher le casque, ce qu'on appelle en physique un mouvement en chute libre.
Les capteurs de la machine testent l'absorption du choc par le casque dans sa chute sur plusieurs positions. Parmi les autres paramètres vérifiés, la stabilité, le système d'attache, la résistance à la compression. Objectif, s'assurer de la protection des usagers sur la route.
2 sur 3 accidents, les motos sont impliquées. Pour le cas de moto, c'est immédiat, ça devient catastrophique. De là est parti l'intérêt de s'intéresser au casque pour quand même et au moins les gens puissent survivre.
Si le port du casque est obligatoire au Rwanda depuis longtemps, aucun standard de qualité n'était requis jusqu'à cette année. L'installation du laboratoire doit permettre de les tester avant leur entrée sur le marché.
On a vu que le problème est sérieux et qu'il faut que progressivement les marques qui ne respectent pas la norme puissent être progressivement remplacées.
Plus de 700 personnes sont décédées dans des accidents de la route en 2023 au Rwanda, en majorité des piétons, des motards et des cyclistes. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et puis le ciel européen, désormais interdit à Air Tanzania. La compagnie aérienne vient d'être ajoutée à la liste noire de la Commission européenne et ce pour des raisons de sécurité. Un coup de frein donc pour Air Tanzania qui doit remplacer de nouveaux appareils achetés dernièrement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien à l'écoute de RFI. Tout de suite avec vous Gaëtan Plenet, la suite d'RFI Matin.
Et c'était le journal de Simon Bourtembourg.